VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du mardi 5 juillet 2022. Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de ce journal. Au Soudan, les civils refusent de collaborer avec l'armée et appellent à plus de manifestations. Les dirigeants éthiopiens et soudanais en froid se sont rencontrés à Nairobi. Au Mali, deux casques bleus ont été tués dans l'explosion d'une mine dans le nord du pays. En Tunisie, le président Kais Saied rejette les accusations sur la nouvelle constitution et appelle ses compatriotes à l'approuver lors du référendum le 25 juillet. L'OTAN intègre la Suède et la Finlande à sa ligne de défense face à la Russie. Ne manquez pas dans cette session d'information la Minute Éco et les sports, mais tout d'abord le journal. Le principal bloc civil du Soudan a rejeté aujourd'hui la proposition du général putschiste Abdel Fattah al-Burhan de laisser la place à un gouvernement civil. La plateforme dénonce un retrait tactique destiné à maintenir l'influence de l'armée dans le pays. Le point avec Eric Manirakiza.
Les forces pour la liberté et le changement FLC ont appelé à poursuivre la mobilisation contre le pouvoir militaire au sixième jour de sit-in anti-putsch dans la capitale et ses banlieues. L'annonce du général Burhan de laisser la place à un gouvernement civil n'a pas convaincu la rue qui a monté de nouvelles barricades juste après son discours hier soir. Car il a annoncé qu'aux côtés du gouvernement civil siégerait un conseil suprême des forces armées dont il n'a pas défini les prérogatives. De son côté, le bloc civil dénonce une trahison et un moyen pour l'armée de garder la haute main sur la politique et l'économie. Les capitales étrangères poussent depuis des mois, civils et militaires, à négocier un retour vers la transition démocratique lancée en 2019 et interrompue par le putsch. Mais mardi, elle n'avait toujours pas commenté l'annonce du général Burhan ni la réponse des civils.
22 migrants maliens, dont 3 enfants, sont morts noyés au large des côtes libyennes, a annoncé ce mardi le gouvernement malien. Il faisait partie d'un groupe de 83 migrants bloqués sur un navire en détresse depuis le 22 juin, a déclaré le ministère des Maliens de l'Extérieur dans un communiqué. Parmi eux, 61 ont été secourus, dont certains ressortissants maliens, avec l'aide de l'Organisation internationale pour les migrations, une agence de l'ONU. Sur place au Mali, 2 casques bleus de l'ONU ont été tués et 5 autres grièvement blessés ce mardi par un engin explosif improvisé dans le nord du Mali, a fait savoir la mission locale des Nations Unies, la MINUSMA. L'incident s'est produit entre le village de Tessalit et la ville de Gao, a fait savoir via Twitter le porte-parole de la MINUSMA, Olivier Salgado. En Tunisie, le président Kais Saied a défendu son projet de constitution après avoir été désavoué par le juriste à qui il en avait confié la rédaction. Les détails avec Claire Morégibou.
Le projet de constitution publié reflète ce que le peuple tunisien a exprimé depuis la révolution jusqu'au 25 juillet 2021 lorsqu'elle a été remise sur le droit chemin. S'est défendu Kais Saied dans un message publié par la présidence tunisienne. Ainsi, il répond à Sadok Belaïd, chef de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution. Dimanche, ce juriste a affirmé que M. Saied a publié une version remaniée accordant de larges pouvoirs au chef de l'État et qui, selon lui, pourrait ouvrir la voie à un régime dictatorial. Le président Saied a rejeté ces accusations, affirmant que la constitution proposée ne porte aucunement atteinte aux droits et aux libertés. Il a appelé les Tunisiens à approuver le texte lors d'un référendum le 25 juillet. Le Front du Salut, une coalition de partis d'opposition, dont la formation d'inspiration islamiste Ennahda, a déjà annoncé qu'il va boycotter ce référendum.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré le chef de la jeune soudanaise Abdel Fattah al-Burhan à Nairobi. Ils se sont engagés à dialoguer pour résoudre tout différent. Les précisions avec Rosine Monizero.
Nous avons tous deux convenu que nos deux pays ont beaucoup d'éléments de collaboration sur lesquels travailler pacifiquement, a déclaré Abiy Ahmed sur Twitter, accompagné d'une photo des deux hommes. Nos liens communs dépassent toutes les divisions. Nous nous sommes tous deux engagés à dialoguer et à résoudre pacifiquement les questions en suspens, a-t-il ajouté. Le Conseil souverain du Soudan s'est contenté d'indiquer qu'il y a eu une réunion à huis clos entre Burhan et Abiy en marge du sommet de l'IGAD à Nairobi. Le mois dernier, Khartoum a déclaré que l'armée éthiopienne a exécuté 7 soldats soudanais et un civil le 22 juin à Al-Fashaga, une bonne terre fertile et objet d'un litige entre les deux pays. Addis Abeba avait affirmé que les forces soudanaises avaient traversé le territoire éthiopien et que les victimes résultaient d'un accrochage avec une milice locale.
Le programme alimentaire mondial s'est alarmé aujourd'hui d'une grave crise alimentaire en Centrafrique. Cette situation est notamment due à l'insécurité persistante et au déplacement de populations dans le pays en proie à une guerre civile depuis 2013. Elle est aggravée par le conflit en Ukraine. Le PAM s'attend à une augmentation de 30% du prix du riz à partir d'août, alors que les hausses atteignent 67% pour la farine de blé et 70% pour l'huile végétale, a indiqué le porte-parole du PAM lors d'une conférence de presse à Genève. L'ex-préfet rwandais Laurent Bouchibaruta s'est présenté aujourd'hui à son procès à Paris comme un fonctionnaire dépassé et impuissant face au génocide visant la minorité Tutsi au Rwanda, déclenché le 7 avril 1994 et qui a fait au moins 800 000 morts selon l'ONU. À aucun moment je n'ai donné des ordres visant à tuer les Tutsi. J'étais dépassé par les événements, je ne pouvais être d'aucune utilité, a-t-il affirmé. Le préfet de Gikorongo, entre 1992 et juillet 1994, Bouchibaruta est jugé depuis le 9 mai par la Cour d'assises de Paris pour génocide, complicité de génocide et complicité de crimes contre l'humanité. L'une des filles de l'ex-président angolais, José Eduardo Santos, a porté plainte pour tentative d'homicide contre son père, hospitalisé à Barcelone dans un état critique. José Eduardo Santos a déposé plainte afin qu'une enquête soit ouverte pour, entre autres, tentative d'homicide présumé et non-assistance en personne en danger.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'OTAN a lancé ce mardi le processus d'intégration de la Suède et de la Finlande. Cela permettra à l'Alliance d'organiser une ligne de défense unie de l'Arctique à la Méditerranée face aux menées de la Russie. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
La signature des protocoles d'adhésion par les ambassadeurs des 30 pays membres ouvre au siège de l'OTAN le processus de ratification. Avec 32 nations autour de la table, nous serons encore plus forts, a déclaré Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Le protocole signifie qu'Helsinki et Stockholm peuvent participer aux réunions de l'OTAN et avoir un plus grand accès aux renseignements. Toutefois, avant la ratification par chacun des parlements des 30 pays membres, la Suède et la Finlande ne seront pas protégées par la clause de défense collective de l'OTAN, selon laquelle une attaque contre un allié est une attaque contre tous. Le président Recep Tayyip Erdogan a donné son accord au lancement de la procédure lors du sommet de Madrid, mais rappelé aux deux candidats les engagements pris. Ankara réclame depuis plusieurs années à la Suède l'extradition de 73 militants kurdes et de personnes proches du mouvement fondé par le prédicateur Fethullah Gulen, accusé d'avoir fomenté la tentative de coup d'État de juillet 2016. La ministre suédoise Anne Linde a démenti toute promesse faite à la Turquie.
L'auteur présumé de la fusillade ayant fait lundi 6 morts et plus de 30 blessés lors d'une parade à Highland Park en banlieue de Chicago, dans l'Illinois, ici aux États-Unis, au cours de célébrations de la fête nationale américaine, s'est procuré légalement le fusil utilisé pour l'attaque, ont déclaré aujourd'hui les autorités locales. Robert E. Crimo III, âgé de 21 ans et non de 22 ans, comme indiqué initialement par la police, est habillé de vêtements féminins pour masquer son identité et les tatouages qu'il porte sur son visage pour se fondre dans la foule après la fusillade, a indiqué un porte-parole du bureau du shérif du comté de Lake. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va s'entretenir cette semaine avec le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, et cela en marge d'une conférence à Bali, a indiqué mardi le département d'État. Les deux responsables qui se sont vus pour la dernière fois en octobre discuteront en marge d'une réunion ministérielle du G20 au moment où le président américain Joe Biden se prépare à un prochain échange avec son homologue chinois Xi Jinping. Et puis, désormais maître de la région de Louhansk, les troupes russes attaquent à de nouveaux objectifs dans celle de Donetsk, toujours dans l'est de l'Ukraine, confirmant l'entrée de la guerre dans une nouvelle phase. Plus de 4 mois après son déclenchement, mardi, les troupes ukrainiennes s'employaient à renforcer de nouvelles lignes de défense dans la région de Donetsk, où elles contrôlent encore plusieurs grandes villes. Vous suivez VOA Afrique, voilà pour le journal. À présent, la minute écho avec Claire Morin-Gibou.
Au Cameroun, le président Paul Biya et le ministre du Commerce ont inauguré le centre commercial Place Yaoundé dans le quartier de Ouarda. C'est le 3e centre commercial de ce type ouvert dans le pays par CFAO Retail qui affirme que cela a créé près de 300 emplois directs et une galerie marchande de 50 boutiques et plusieurs restaurants. L'Organisation internationale de la francophonie organise une deuxième mission économique et commerciale en Afrique centrale en collaboration avec les autorités du Gabon et du Rwanda. La rencontre va porter sur les filières de l'agro-industrie, des énergies renouvelables, des biens et services numériques avec la participation d'environ 250 entreprises locales économiques issues d'une trentaine de pays francophones. L'euro a plongé aujourd'hui à son plus bas niveau depuis près de 20 ans face au dollar, moins de 1,03 $ pour 1 euro. L'invasion russe de l'Ukraine et l'envolée des prix du gaz pèsent fortement sur l'euro. Aussi, la croissance en zone euro a fortement ralenti en juin dans le secteur privé, au plus bas depuis 16 mois.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
La CAN féminine se poursuit au Maroc.
Le groupe A effectue sa deuxième sortie dans cette CAN. Battu en ouverture par le pays hôte, le Burkina Faso veut se relancer face au Sénégal, qui voudra confirmer après sa victoire lors de la première journée. Opération relance également pour l'Ouganda devant le Maroc. Hier, le groupe C a bouclé les rencontres de la première journée. Dans le duel entre le champion en titre, le Nigeria et l'Afrique du Sud, ce sont les Bayana sud-africaines qui se sont imposées 2-1 devant les Super Falcons. Le Botswana a pris le dessus sur le Burundi 4-2.
Christophe Galtier est le nouvel entraîneur du PSG.
Un entraîneur exigeant pour mettre fin à l'ère du bling-bling intronisé ce mardi. Christophe Galtier compte appliquer sa poigne au Paris Saint-Germain, se disant capable de gérer les égos d'un effectif de luxe pour relever le défi ultime du club, conquérir la Ligue des Champions.
L'exigence, le travail, le respect et l'équipe avant toute chose. Il y aura évidemment, comme dans tout groupe, quelquefois quelques manquements, ça peut arriver, mais on va faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Les décisions seront prises, il n'y aura aucun joueur au-dessus de l'équipe.
Le technicien français qui s'est engagé pour 2 ans avec le PSG remplace l'Argentin Mauricio Pochettino. Arrivé au chevet de Lille fin 2017, Christophe Galtier a réussi à maintenir le club en Ligue 1 en 2018, le mener ensuite à la 2e place, puis à la consécration en mai 2021, détrônant Paris de Pochettino pour le titre national, épaulé à l'époque par le directeur sportif Luis Campos, qui le retrouve à Paris.
Mondial de rugby 2023, les matchs qualificatifs de la zone Afrique se poursuivent.
Ça se joue en France. La sélection algérienne fait figure de petit pousset des demi-finales de demain. L'Algérie victorieuse du Sénégal 35-12 en quart de finale sera opposée au Kenya à Marseille pour une place en finale dimanche. L'autre demi-finale verra la Namibie, grande favorite de la compétition et 24e nation mondiale, affronter le Zimbabwe à Aix-en-Provence. Le vainqueur de la finale se qualifiera pour le Mondial 2023.
Cyclisme, Wout van Aert remporte la 4e étape.
Oui, le Belge de l'équipe Jumbo a réussi un coup de force s'imposant en solitaire à Calais. Déjà porteur du maillot jaune, Wout van Aert s'était classé 2e des 3 premières étapes au Danemark, âgé de 27 ans. Il remporte ainsi son 7e succès d'étape dans le Tour depuis sa première participation en 2019. Au classement général, il compte désormais 25 secondes d'avance sur l'autre Belge, Yves Lampaert, et 32 secondes sur le vainqueur sortant, le Slovène Tadej Pogačar, à la veille de l'étape des pavés longue de 171,5 km et menant à Arenberg dans le Nord.
Page de sport VOA Afrique signée Yacouba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Au Soudan, la rue maintient la pression face aux militaires. Le principal bloc politique civil au Soudan a appelé ce mardi les manifestants pro-démocratie à maintenir leur sit-in contre le général putschiste Abdel Fattah al-Burhan et a appelé de nouveau au départ de ce dernier du pouvoir, malgré l'annonce de sa volonté de laisser la place à un gouvernement civil. Qu'est-ce qui explique ce regain de tension au Soudan? Abdourahman Dia a posé la question au rédacteur en chef du journal en ligne Soudan Tribune, Mohamed Nadji, basé à Paris.
En fait, il y a cette intensification, j'allais dire, des protestations populaires et des manifs, démonstrations, etc. Parce que les militaires n'ont pas l'air de vouloir lâcher de l'est et donc rétablir le gouvernement civil. Au contraire, ils ont l'intention de se maintenir sur place et de continuer, n'est-ce pas, à diriger le pays.
Pourtant, le général al-Burhan a annoncé lundi sa volonté de laisser la place à un gouvernement civil. Vous pensez que, comme le dit ce bloc politique, c'est un peu un retrait tactique de l'armée qu'il veut effectuer?
En fait, ce n'est pas seulement un retrait tactique. En réalité, lui, il a dit déjà, al-Burhan, depuis avril 2019, al-Burhan se mettait à dire quelque chose de très simple. Il disait que moi, je veux bien les civils dirigent le pays, mais que ce soit un gouvernement de gestion des affaires courantes et qu'il prépare les élections, bon, que le conseil militaire reste aux affaires du pays et soit là pour assurer le destin du pays. N'est-ce pas? Donc, sur le destin du pays, il parle de la question de l'armée, de la question de sécurité, il parle de la politique étrangère et il parle aussi de contrôle de la politique économique, surtout de la banque centrale, etc. Le reste, c'est pour les civils. Et les civils, les gars, il faut pas se tromper. Ce sont ceux qui veulent accepter nos plans et qui veulent travailler avec nous.
Malgré l'annonce du général al-Burhan de sa volonté de céder la place à un gouvernement civil, vous craignez que le blocage se poursuive?
Mais au fait, en réalité, al-Burhan, il fait une annonce, mais ce n'est pas la réalité de ce qu'il entend faire. C'est-à-dire, lui, il veut consacrer une situation qui est déjà de fait, n'est-ce pas? Pour le gouvernement civil, il entend par là ses alliés qui viennent à ses côtés. Donc, du coup, il répond en aucun cas aux demandes, aux revendications populaires ou de ses opposants, en tout cas. Et du coup, c'est, voilà, les autres, ils disent, ils n'ont pas le choix que d'intensifier et de monter la pression populaire contre lui.
C'était Mohamed Nadji, joint à Paris en France.
Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Alors que l'Éthiopie souffre de la pire sécheresse qu'est connue la Corne de l'Afrique depuis des décennies, les habitants de la région d'Afar dans le nord sont contraints d'utiliser l'eau sale des rivières. Les autorités et les groupes d'aide ne peuvent fournir des camions-citernes que lorsque c'est possible, laissant les habitants avec peu d'options. Le reportage de Halima Atoumani depuis la région d'Afar en Éthiopie, le récit avec Eric Manirakiza.
Ce ruisseau sale provient de la rivière Awash, une source d'eau vitale pour les habitants et leur principale source d'eau pour se baigner, se laver, cuisiner et boire. L'Éthiopie souffre de la pire sécheresse qui ait frappé la Corne de l'Afrique depuis 40 ans et la région d'Afar, dans le nord du pays, ne fait pas exception. L'eau potable est un luxe qu'ils ne peuvent se permettre, explique Aïcha Ali, habitante de Semera.
Mes enfants souffrent de maladies de la peau, ils sont toujours malades parce que l'eau que nous utilisons n'est pas propre. Certains enfants meurent même à cause de cette eau insalubre.
Radija Hamida vit à côté de la rivière et dit que ses enfants souffrent également de maladies à cause de l'eau sale.
C'est le seul choix que nous ayons. Tous nos enfants et toutes nos familles utilisent cette eau.
Mais il n'y a pas que les villageois qui luttent contre le manque d'eau potable. L'hôpital d'Obti, le seul hôpital fonctionnel d'Afar, est submergé de patients. Le docteur Youssouf Mohamed, directeur par intérim, affirme qu'il souffre également de la pénurie d'eau.
Il arrive que nous ne recevions pas d'eau. Parfois, certains cas de chirurgie élective sont arrêtés ou reportés à cause du manque d'eau. Les infections du site chirurgical sont là parce qu'il n'y a pas d'eau adéquate. Les assistants des patients utilisent de l'eau de pluie. Il y a une rivière à proximité. C'est de l'eau de rivière qui n'est pas sûre et pas propre.
Le service hydraulique de la région Afar affirme qu'il a du mal à faire face à la pénurie d'eau.
Nous avons creusé de nombreux forages, mais nous n'avons pas pu les utiliser en raison d'une pénurie de fluorure. Le niveau de fluorure dans les forages était inférieur à la norme de l'OMS et nous avons été obligés de fermer les puits. Le coût de filtrage de l'eau est élevé et dépasse les capacités de notre bureau.
Le soulagement vient lorsque l'eau potable est acheminée par camion par les groupes d'aide et le gouvernement régional.
Auparavant, on achetait de l'eau et on la transportait depuis le centre-ville. Un jerrycan coûte environ 40 centimes, 20 birres. C'était cher et fatigant. Mais maintenant, nous avons de l'eau propre, donc c'est bien pour nous.
Mais ce soulagement n'est que temporaire, car le camion est rapidement à sec et les gens doivent attendre le prochain ou prendre le risque d'utiliser l'eau de la rivière.
Avec vous, dans Washington Forum cette semaine, la levée des sanctions économiques et commerciales contre le Mali. Après des mois de bras de fer, la CEDEAO et Bamako s'accordent sur un calendrier électoral permettant à la transition de se poursuivre jusqu'à février 2024. Même si les sanctions individuelles et la suspension du Mali sont maintenues, beaucoup voient un dégel dans les conclusions du sommet d'Accra. Quelles leçons tirées de la gestion des coups d'État au Mali, en Guinée et au Burkina par la CEDEAO? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.com.
Des vétérans qui ont servi dans des opérations spéciales de l'armée américaine dans les régions les plus troublées du monde ont formé le projet Dynamo, dont l'objectif est d'exfiltrer des personnes dans des zones dangereuses. Récemment, ils ont effectué une nouvelle prouesse en exfiltrant de Mariupol, ville ukrainienne sous l'emprise des forces russes, un scientifique nucléaire américain qui était surveillé depuis quelque temps par le FSB, le Service fédéral de sécurité russe. Les détails avec Nathalie Barge.
Recherché par le FSB pour ses connaissances en armement sophistiqué, John Spohr vivait depuis quelques années dans cette ville contrôlée par les forces russes. Il a été escorté du sud de l'Ukraine jusqu'à Medika, à la frontière polonaise, à plus de 1200 km de Mariupol. Une expérience traumatisante, a-t-il confié à VOA Afrique.
C'était ennuyeux et terrifiant à la fois. Ce que je devais faire pour m'en sortir, ce n'était pas moi. Je devais avoir l'air d'être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas donner de détails sur la façon dont je suis sorti, parce que Brian essaie toujours de faire sortir d'autres gens. Il y a environ 2000 personnes qui aimeraient sortir de Mariupol.
Un long parcours éprouvant, vécu avec la peur au ventre, semé d'embûches dont une quarantaine de points de contrôle à franchir le plus sereinement possible. VOA Afrique a contacté en Pologne le cofondateur du projet Dynamo, Brian Stern, chef de cette opération sur le terrain qu'il venait tout juste de boucler avec son équipe.
Nous n'entrons généralement pas dans les détails de la façon dont nous le faisons parce que c'est beaucoup de magie. Un magicien ne montre jamais ses tours, surtout parce que nous avons beaucoup plus de sauvetage à faire. Le projet Dynamo est une équipe formidable, composée d'Ukrainiens et d'Américains opérant sur le terrain en Ukraine. Tout ce que nous avons commencé à secourir, nous avons réussi à les sauver.
Cette organisation de sauvetage américaine à but non lucratif, dont le siège est à Tampa en Floride, a travaillé sur la mission complexe Lone Star pendant plus d'un mois. Alors que sa famille a pu quitter l'Ukraine en toute sécurité, John Spore est resté coincé à Mariupol, ville portuaire sur les rives de la mer d'Azov, déjà attaquée en 2014 et 2015 par les séparatistes pro-russes.
Je vis à Mariupol depuis des années, j'y vais depuis 15 ans, j'y vis depuis 2018, c'était ma maison. Mariupol est ma maison, je n'ai pas de maison ici à Dallas.
Ce concepteur de technologies sensibles utilisées dans des systèmes d'armes à guidage laser par l'armée américaine était surveillé par les forces russes et tchétchènes, selon les responsables du projet Dynamo, affirmant qu'en cas d'interrogatoire, ces connaissances auraient pu causer des dommages à la sécurité des États-Unis et aux forces de l'OTAN. Après le siège de l'armée russe et les attaques incessantes à Mariupol, Spore a fui sa résidence et s'est caché.
Je soupçonnais que les Russes me cherchaient, alors je prenais des précautions pour essayer de les empêcher de me trouver, naviguant dans différents endroits de la ville, apparaissant ici et là avec un signal téléphonique pour faire croire que je suis là-bas quand je suis ici.
Pour masquer la localisation et les mouvements de leurs protégés des griffes des services de sécurité russes, l'équipe dirigée par Brian Stern a utilisé des tactiques affûtées au cours d'années de service pour le gouvernement américain.
All rescues are dangerous.
Tous les sauvetages sont dangereux. Pour ce que nous appelons la personne isolée, la personne évacuée ou secourue, c'est toujours dangereux pour eux, parce que je peux le faire peut-être 100 fois, mais c'est probablement la première fois qu'ils sont secourus. J'ai une expérience de ce genre de choses quand ils n'ont pas.
Cet ancien officier, lieutenant commandant de la marine américaine à la retraite, a fait ses armes aux quatre coins de la planète, y compris en Afrique.
Que le sauvetage soit en Somalie ou au Guatemala, c'est pareil. Vous avez une personne coincée dans un endroit qui a des problèmes, qui est blessée ou quoi que ce soit d'autre et qui est dans un mauvais lieu géographique. Ils ont besoin d'être déplacés passivement, agressivement par la force, la négociation, la tromperie, d'une autre manière, et transportés en lieu sûr.
Dérivé de l'opération Dynamo, nom de code de la mission militaire d'évacuation de Dunkerque en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, le projet Dynamo tente aujourd'hui l'impossible pour exfiltrer des Américains et leurs alliés embourbés dans des régions des plus hostiles du monde. Il a été créé par des militaires lors du retrait américain d'Afghanistan en 2021. Certains avaient été déployés en Ukraine en janvier pour commencer à planifier des opérations de sauvetage en cas d'invasion russe. Nathalie Barge, VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Bion à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com. et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.